France Inter.
Bonjour. Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, les Athéniens avaient un grand problème d'identité à régler. Ils pensaient qu'ils étaient tous nés de leur propre terre, qu'ils étaient autochtones. Athènes, leur ville, était une ville terrestre, bien solide sur son rocher, l'Acropole, sur toutes ses autres collines et dans sa plaine. Elle se le répétait tout le temps. Être autochtone, cela voulait dire être libre, ne dépendre de personne. Cela voulait dire que tous les citoyens avaient, croyait-on, la même mère, qu'ils étaient tous frères et donc égaux. Mais Athènes était aussi une ville tournée vers la mer, vers le grand large et tous ses dangers, ses incertitudes. Athènes avait construit au Pirée un grand port avec plusieurs anses. Les Athéniens construisaient sans cesse des bateaux qui sillonnaient toute la Méditerranée, qui allaient intimider les autres villes, qui assuraient la cohésion du grand empire marin qu'Athènes s'était peu à peu constitué. Athènes était à la fois terrienne et maritime. Comment concilier les deux quand on dit qu'on est issu de son propre sol ?
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Les Athéniens ont su le faire. Ça n'a pas été simple. Il faut dire qu'ils étaient habiles et pas à un paradoxe près. Ils ne se contentaient pas d'être des imbéciles heureux qui sont nés quelque part, comme dit la chanson. Ils avaient compris que pour être heureux chez soi vraiment, durablement, il fallait savoir bouger, prendre la mer. Un jour, Athènes a été menacée, et même plus que menacée, par Xerxès, le roi perse, qui avait envahi une grande partie de la Grèce. Son immense armée, venue de toute l'Asie, avait déferlé jusqu'à Athènes. La ville autochtone allait être comme déracinée, broyée. Pour sauver ce qu'ils pouvaient des tombes de leurs ancêtres, de leur terre natale et nourricière, des antiques cultes des dieux, les Athéniens ont pris une décision incroyable. Le dieu Apollon les y avait poussés par un oracle. Ils ont abandonné leur ville, leur terre, à l'ennemi, qui ne s'est pas privé de la saccager et d'y mettre le feu. Mais c'était pour combattre les Perses sur mer, sur une armée de bateaux, armée hypermobile, insaisissable, rusée. Et ils ont gagné, lors de cette immense et sanglante bataille que fut la bataille dans les eaux de Salamine. L'autochtonie a été sauvée sur mer. Pour se convaincre même qu'ils étaient à la fois terriens et marins, les Athéniens ont dû faire preuve d'une grande imagination et inventer un mythe costaud, un mythe où la puissance stable, généreuse de la terre pouvait s'associer à la puissance heurtante, dérangeante et infinie de la mer. Nous avons commencé à raconter ce mythe. Comme toute histoire, il débute par une crise, un conflit violent. Vous vous souvenez ? Résumé des épisodes précédents. Les Athéniens, ou plutôt les humains qui allaient s'appeler les Athéniens, ont choisi Athéna et non pas Poséidon, le dieu de la mer, comme divinité à qui ils allaient confier leur pays. Poséidon leur offrait de l'eau salée, que d'un coup de trident, il a fait jaillir des rochers de l'Acropole. Par là, il leur offrait la maîtrise des mers. Athéna leur offrait l'olivier, l'arbre nourricier par excellence, dont les feuilles ne meurent jamais. Les Athéniens ont préféré l'olivier et Poséidon s'est fâché. Sa colère sera terrible. Puis, Athéna a participé à la naissance, à partir de la terre, du premier roi d'Athènes. Sa participation est indirecte et involontaire et tordue. Ce mythe est plutôt comique. Le dieu Héphaïstos, le dieu estropié, boiteux, dieu artisan, forgeron, souvent malheureux en amour, poursuivait Athéna avec ardeur. Elle lui a échappé. Mais la semence du dieu trop vif s'est libérée et a fécondé la terre, la déesse terre, Gaïa. Terre a accouché d'un petit enfant mâle qu'elle a confié à Athéna, qui l'a recueilli et élevé. Cette histoire de naissance terrestre autochtone est vraiment étrange et montre à quel point les Grecs pouvaient s'amuser quand ils composaient leurs mythes.
Nicole Laureau, helléniste.
En fait, Héphaïstos est très peu désigné comme le père des Athéniens. Tout se passe comme si le mythe d'autochtonie arrangeait les pères athéniens qui peuvent revendiquer leur part dans cette affaire, mais comme si on gommait complètement de l'histoire le géniteur qui a eu comme seule fonction, si j'ose dire, de produire le sperme, après quoi il sort de l'affaire. Il y a beaucoup de représentations figurées sur les vases de la naissance d'Erichthonios, mais Héphaïstos est présent sur une seule. Somme toute, c'est un nom assez rare, comme si Héphaïstos, qui était le principe mâle nécessaire pour engendrer, n'était pas un père présentable. Et puis je crois aussi que dans cette affaire, il faut, pour conserver les pères historiques, ne garder que du féminin à l'origine.
Le nouveau-né est bien né de la terre, du sol naturel. Mais il a en plus deux parents, un père et une deuxième mère, une mère adoptive. Héphaïstos et Athéna, qui ne se sont pas unis naturellement. Athéna le refusait totalement. Elle est éternellement et vigoureusement vierge. Mais tous les deux ont en commun d'être des divinités habiles, des divinités techniciennes de l'artisanat, de l'artifice. La nature, la terre, pour faire naître un homme autochtone, ça ne suffit pas. Il faut l'intelligence, la ruse, l'artifice, la technique. Il faut aussi de l'art pour fabriquer de l'humain doté d'un corps et d'un esprit. Athéna recueille le petit et essaye de ruser. Elle le cache dans une corbeille pour que personne, aucun dieu ne le voie. Elle voulait en secret le rendre immortel. Mais ça ne va pas marcher. Athéna confie la corbeille à la fille du maître des lieux, le grand Kécrops, un homme né de la terre qui était mi-homme et mi-serpent. Le serpent est la bête terrienne par excellence. La fille de cet homme prodigieux, bien terrestre, avait reçu d'Athéna l'ordre de ne pas ouvrir la corbeille, où Athéna a introduit un ou deux serpents pour défendre le petit. Or, les sœurs de la jeune fille sont curieuses. Elles ouvrent la corbeille, elles voient les serpents, ont peur, et selon la version la plus connue, vont se jeter du haut d'un rocher de l'Acropole. La naissance par la terre porte malheur à ces jeunes filles qui n'auront pas le temps de se marier et d'avoir des enfants. Le petit grandit. Il s'appelle Erichthonios, nom qui veut dire le trait terrien. Bien élevé par l'habile Athéna, il règne sur Athènes et crée une grande fête annuelle pour sa mère adoptive Athéna, les Panathénées. Une grande procession rituelle que l'on peut voir aujourd'hui représentée par un très long bas-relief sculpté et peint au 5e siècle avant notre ère. Cette procession de marbre avait été placée en une longue frise sur l'Acropole, au-dessus des colonnes du Parthénon, le grand temple d'Athéna à Athènes. Cette procession continue actuellement sa marche sur les murs d'une grande salle du British Museum à Londres, jusqu'à quand ? Erichthonios se marie. Même né de la terre, on ne peut pas faire un enfant qui naisse de la terre. Il faut revenir à l'humanité normale et à ses habitudes de reproduction. Il fonde une dynastie. Les récits sur cette famille sont extrêmement variés et confus. Aucun grand poète n'a eu envie de composer un chant qui raconte toute cette histoire, alors qu'elle était extrêmement présente dans l'esprit des Athéniens, dans leur vie quotidienne, dans leurs rites, leurs pratiques habituelles ou solennelles, dans leurs temples, leurs sculptures. Peut-être que cette histoire bien concrète, toute proche et visible, n'avait pas besoin d'une poésie. La poésie est le plus souvent réservée aux héros lointains. Selon l'histoire la plus simple, Erichthonios a un descendant qui s'appelle Erechthée. Parfois c'est son fils, parfois son petit-fils. Mais souvent, Erechthée est en fait un autre nom pour Erichthonios. C'est flou, ça change, on s'y perd. L'histoire la plus simple dit que cet Erechthée est le fils d'Erichthonios. C'est celle qu'a choisi Euripide, le poète tragique. On le suivra. Le nom Erechthée, Erechtheus, n'a rien à voir avec le latin Erectus, dont on se sert pour désigner l'homme, homo erectus, l'homme érigé, dressé. À partir du moment où dans son évolution, il a cessé de marcher à quatre pattes et s'est dressé sur ses deux jambes, debout, érigé. Il a pu voir et découvrir le vaste monde. Le nom Erechtheus est une variante d'Erichthonos, l'ancêtre autochtone, né de la terre et de la semence d'Héphaïstos.
Sauvage, ma vitesse, c'est l'infini, ma colère, c'est la tornade, quelque chose dans le vent me dit qu'il est temps.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Jeudet de la Combe raconte la tragique histoire d'Érechthée, roi d'Athènes.
Pour suivre la tragique histoire d'Érechthée, roi d'Athènes, nous allons nous laisser guider par Euripide, le poète. Il a composé une tragédie, Érechthée, qui est perdue. Mais par chance, nous pouvons en lire de longs extraits, ou bien parce que des auteurs anciens les ont cités, ou bien, pour la dernière partie de la pièce, environ 120 vers, parce que des morceaux d'une édition ancienne de la pièce ont été découverts sur un papyrus, conservé à Paris, à la Sorbonne.
Claire Nancy, helléniste.
On sait que les premières tragédies datent, en gros, de la seconde moitié du VIe siècle, et elles s'achèvent exactement avec la fin du Ve siècle. Donc elles sont tout à fait contemporaines de la cité. Elles interrogent, au fond, la cité. Elles lui renvoient une espèce de miroir des problèmes qu'elle rencontre, de sa constitution, puis de ses difficultés avec Euripide. La cité tout entière venait assister à la tragédie, qui était la représentation, donc, des problèmes moraux, religieux, politiques que rencontrait la cité.
Évidemment, ce papyrus fragmentaire s'arrête au moment où il ne faut pas, quand la déesse Athéna intervient à la fin de la tragédie, pour dire comment toute l'histoire va finir. Tant pis. Mais c'est une redécouverte magnifique. Le papyrus vient d'Égypte, d'une momie. On utilisait des morceaux de papyrus en déchirant un rouleau sur lequel des textes étaient écrits pour façonner les masques en papier mâché qui recouvrent les momies. Les morceaux de papyrus ont été prélevés sur un rouleau, un volumen ancien, qui date d'environ 250 avant Jésus-Christ. Pour lire le texte, qui est écrit sur des colonnes verticales, ont déroulé le papyrus. Rouleau se dit en anglais « scroll ». Dans l'Antiquité, les lecteurs scrollaient, comme maintenant, quand on fait défiler un texte sur écran, c'est un retour aux sources. Érectée est le roi d'Athènes. Il a des enfants, uniquement des filles, qu'il a eues avec la reine Praxitéa. Cette reine est la fille d'un fleuve, le Céphise, qui coule à Athènes. Les fleuves, à l'époque, savaient faire des enfants. Leur flot était fécond. N'a-t-on pas dit qu'Homère était le fils d'un fleuve tombé amoureux d'une humaine ? Le couple Érectée-Praxitéa n'a pas d'enfant masculin, ce qui est un problème pour un roi dont l'ancêtre est un mâle sorti directement de la terre, sans intervention féminine humaine. D'après ce que l'on peut supposer, Érectée aurait adopté comme fils un étranger, un dénommé Xoutos, qui l'avait fortement aidé dans une guerre contre des ennemis d'Athènes. La pièce d'Euripide commence par la colère de Poséidon. Le dieu ne s'est toujours pas remis d'avoir été rejeté par les Athéniens qui lui ont préféré la déesse Athéna. Il est tout à fait décidé à faire payer cet outrage et à prendre le pouvoir sur Athènes. Pour cela, il va faire intervenir un de ses fils et l'envoyer à la tête d'une armée contre Athènes. Avec une mortelle, Clionée, dont le nom veut dire la neigeuse, Poséidon a eu un fils, Eumolpos, au joli nom de belle danse ou de belle chanson. Ironie, ce jeune homme, si on se fie à certaines traditions, est le petit-fils du roi d'Athènes, Érectée. Une fille d'Érectée, Oreituia, a eu cet enfant de son union avec le dieu Borée, dieu du vent du nord, dieu tempétueux. C'est toute une histoire. Borée était venu à Athènes pour demander au roi Érectée la main de sa fille, Oreituia. Son apparence ne plaidait pas en sa faveur. Il était couvert de cheveux gelés où pendaient des stalactites de glace. Érectée refuse. Borée se met en colère, nous raconte Eschyle le poète, dans une de ses pièces, dont il ne reste quasiment rien. Borée menace, lui, le dieu du froid, de souffler sur la maison d'Érectée pour y attiser un grand feu.
Et qu'ils éteignent le grand éclat de leur four. Car si je vois un seul feu à veiller sur leur foyer, j'y ferai entrer, déferlante, une tornade d'hiver, une seule, et j'enflammerai la maison pour en faire du charbon. Et je n'ai pas encore fait hurler la plus noble de mes musiques.
On ne sait pas bien ce qui s'est passé. Toujours est-il que Borée enlève Oreituia alors qu'elle cueillait des fleuves au bord d'une rivière. Les sœurs d'Oreituia essayent de la défendre, en vain. Borée emmène la jeune fille loin au nord, en Thrace, T-H. Là-bas, au nord, elle aurait donné naissance à cette fille Clionée, la neigeuse. Les années passent, et Poséidon tombe amoureux de Clionée. Il lui fait un enfant, Eumolpos. Ce n'était pas une union régulière. Dans la pièce, le dieu évoque
« des noces sans garantie ».
La jeune fille accouche du garçon, mais elle a tellement honte qu'elle jette l'enfant à la mer. Poséidon, le père, sauve le nouveau-né et l'emmène loin, en Éthiopie, du côté des levées du soleil, un pays limite. Plus loin que ce pays, il se passe des choses bizarres, dit Poséidon. L'humanité n'est pas pareille.
Au-delà habitent, je crois, des barbares qui ne consomment pas de poissons.
En Éthiopie, Poséidon confie son fils à une de ses filles, qu'il avait eue d'Amphitrite, son épouse légitime. Cette fille s'appelait Bentesikumé, un joli nom, houle des profondeurs. Sur cette histoire, les fragments du texte d'Euripide sont très incomplets. D'après un récit plus tardif, la jeunesse d'Eumolpos ne fut pas tranquille. Le jeune homme doit s'exiler.
Quand Eumolpos arriva à l'âge adulte, Endios, le mari de Bentesikumé, lui donna en mariage une de ses deux filles. Eumolpos essaya de faire violence à la sœur de sa femme, ce pourquoi il fut banni.
Eumolpos rejoint le pays où il a été conçu, la Thrace, au nord de la Grèce. Il y est reçu, épouse la fille du roi, mais essaye de renverser ce roi. Il doit à nouveau s'exiler et se retrouve dans un pays tout près d'Athènes, Éleusis. L'histoire ensuite est confuse. Les gens du nord, les Thraces, se réconcilient avec cet Eumolpos, le font revenir et le proclame roi. Le fils de Poséidon a donc parcouru une partie du monde, jeté à la mer. Il a voyagé entre la froide Thrace, l'Éthiopie brûlée par le soleil et un pays tout proche d'Athènes, Éleusis. Or, un jour, les gens d'Éleusis entrent en guerre avec Athènes. Eumolpos lève une grande armée et accourt de Thrace pour les aider. Athènes est vraiment en danger. Poséidon pense que grâce à son vaillant fils, Eumolpos, il sera vengé. En toute urgence, Érechthée va consulter Apollon dans son sanctuaire de Delphes. Le dieu lui fait une réponse terrifiante. Érechthée sauvera Athènes s'il sacrifie un de ses enfants. C'est horrible. Apparemment, mais là rien n'est sûr, puisque nous n'avons que des fragments du texte d'Euripide, Érechthée aurait pensé à sacrifier son fils adoptif, le dénommé Xouthos, et pas l'une de ses filles. Mais son épouse, Praxitéa, s'y oppose. Un enfant adoptif vaut moins qu'un vrai enfant. Le dieu ne serait pas content.
Les enfants adoptés, quelle est leur puissance? Les enfants par nature, il faut penser qu'ils sont plus forts que ceux qui le sont par décision.
La mère, Praxitéa, est bien décidée, sans hésitation, à sacrifier une de ses filles s'il faut sauver la cité. Elle se lance dans une longue tirade qui a pu éblouir certains interprètes anciens et modernes qui ont vu la ferveur d'une vraie patriote. Mais je crois plutôt qu'Euripide fait entendre une voix de dingue, de fanatique, comme on en entend beaucoup aujourd'hui. Si Praxitéa n'hésite pas une seconde à vouloir faire tuer sa fille, c'est qu'Athènes vaut le coup. C'est une ville d'origine pure qui n'a pas été au départ corrompue par des étrangers.
Moi, je vais offrir ma fille pour qu'on la tue. Et mes arguments sont nombreux. D'abord, personne ne pourrait trouver une ville qui soit meilleure que la nôtre. Parce que, en premier, nous ne sommes pas un peuple importé d'ailleurs. Nous sommes nés autochtones. Les autres villes sont ballottées en tous sens comme des pions sur un échiquier, car elles sont un mélange d'éléments venus d'ici et là. Quand on habite une ville et que l'on vient d'une ville étrangère, on est comme une mauvaise cheville plantée dans le bois. On est seulement un citoyen en parole, pas en acte.
Puis, un simple calcul suffit. Éliminer une seule vie ne pèse pas lourd, si ça permet d'en sauver beaucoup.
Ensuite, pour quelle raison mettons-nous au monde des enfants? Pour défendre les autels des dieux et la patrie. La ville tout entière porte un seul nom, alors qu'une multitude y habite. Comment pourrais-je faire périr tous ces gens quand je peux, pour le bien de tous, livrer une seule vie à la mort? Car si je sais bien compter, et le moins et le plus, une seule maison ne vaut pas plus que l'effondrement de toute une ville. Ce n'est pas égal.
Puis, Praxitéa s'avance alors un peu. Elle pense que sa fille sacrifiée va sauver non seulement toute la ville, mais sa famille, sa mère et ses sœurs. Or, c'est précisément ce qui n'aura pas lieu.
Elle sauvera celle qu'il a mise au monde, et toi, Érechthée, et ses deux sœurs de même semence. Qu'y a-t-il là qui ne soit beau à gagner? Cette fille n'est mienne que par la nature, je l'offre en sacrifice à la terre. Car si la ville est prise, qu'est-ce que ça me rapporte d'avoir des enfants? N'est-ce donc pas moi qui sauverai tout? D'autres gens devraient nous commander? Eh bien moi, je sauverai notre ville.
Le roi Érechthée se laisse convaincre. On ne sait pas comment, mais il obtient l'accord de l'une de ses filles, l'aînée sans doute. Il les fait venir avec des paroles d'amour.
Rien n'est plus doux qu'une mère pour des enfants. Aimez votre mère, mes filles, car on ne peut aimer d'aucun amour qui soit plus doux.
La fille est tuée, mais ce que Érechthée et Praxitéa n'avaient pas prévu, c'est que les deux sœurs de la sacrifiée allaient se donner la mort. Elles avaient juré que si l'une d'entre elles mourait, les deux autres devaient mettre fin à leur vie. Une seule fille subsiste, la petite Créusa, qui était encore un bébé. Le calcul, une vie pour sauver toutes les autres, était faux. Le roi Érechthée part à la guerre. Il se dit qu'il peut mourir. Par précaution, il donne des conseils à son fils adoptif, sans doute Xouthos. qui pourrait avoir à lui succéder. Ce qu'il dit manque de grandeur. Le roi n'enseigne pas à son fils ce qu'est un bon gouvernement, mais ce qu'on doit faire pour garder le pouvoir.
Puisque tu es raisonnable et capable, si je meurs, de garder en tête les principes qu'enseigne ton père, je veux, mon enfant, te faire des recommandations. Elles seront de précieuses richesses, utiles à ta jeunesse. En peu de mots, je rassemblerai une foule de bons conseils. D'abord, il faut toujours garder un esprit innocent. Fais tout pour être riche, car cela donne la noblesse et des mariages de premier choix. Dans l'état de pauvre, il y a l'obscurité, même si on est sage, et une vie sans valeur.
Le père, roi avisé, ajoute qu'un monarque doit éviter la débauche et d'abuser de ses sujets. Les adieux sont touchants et virils.
Eh bien, mon enfant, donne-moi ta main, que ton père puisse la toucher. Au revoir, bonheur pour toi. Par pudeur, je ne peux pas trop t'embrasser, car avoir des élans de femme, ce n'est pas pour un homme sage.
Sometimes my body seems so alien to me. I quiet it down by watching TV. But grow restless and grow hungry as the water rises up around me. You come on screen, so good looking it's obscene. I put my fist into my mouth and scream. Some things it seems are catching up with me. And as it rises to my chin, I should really stop watching. And as I reach for the remote, it is rushing down my throat. I let it in, I start to swim. I grow many arms and legs, and then I start to sing. And all of my peers, they had such potential, but the swamp, it took them down. And my love, I have to tell you, I kissed them all and let them drown. Oh, you didn't see me, just another drunken groupie. So when your hand reached out, I just pushed you further down. My tentacles so tender as I caress your cheek. Did you know how big I would become and how much I would eat? So glamorous and ravenous as I drag you off your feet. There's nothing you can do. Some things it seems are catching up.
Pierre-Judith de la Combe raconte l'horrible mort d'Érectée, transpercée par le trident de Poséidon.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
La bataille se déclenche. Erecté est vainqueur. Le sacrifice de sa fille a donc servi à quelque chose. Mais au cours des combats, Erecté tue son adversaire, Eumolpos, le fils de Poséidon. Poséidon est furieux et venge son fils. Sur l'Acropole, il frappe Erecté de son trident et le coup précipite Erecté dans la terre où il disparaît. L'autochtone, ou fils d'autochtone, retourne violemment dans la terre qui est son origine. Un messager annonce la double nouvelle à la reine Praxitéa. La bonne, la victoire des Athéniens, et la mauvaise, la mort du roi.
Erecté a dressé sur cette terre un trophée contre les barbares.
Tes paroles sont belles, mais qui est mort ?
Eumolpos est tombé.
Mon mari Erecté est sain et sauf ?
Cet homme est bien heureux et jouit d'un bon destin.
S'il est vivant, et si tu m'apportes la belle fortune de la victoire ?
Au point qu'il ne reste rien d'autre que des dépouilles.
Qu'est-ce que tu dis ? Il est mort ou il voit la lumière du jour ?
Il est mort. Mais j'affirme que ceux qui sont morts en beauté vivent plus que ceux qui voient la lumière et vivent sans beauté.
En fait, la victoire sur l'armée ennemie est de courte durée. Poséidon ne relâche pas sa colère. Avec son trident, il secoue la terre athénienne, menace de la disloquer, de la détruire. Il veut sa revanche. C'est le sauf qui peut. Les Athéniens, la reine Praxitéa, sont effrayés et parlent de fuir.
Tête de Déméter, nous sommes pris, emportés vers les larmes. Toi, ô plainte, toi, il t'a transpercé, tristesse.
Plainte, qui appelait en premier ? Toi, ma patrie, ou toi, couple chéri de mes filles, courir vers votre tombeau de délirante, où j'ai vu vos tendres membres aux lamentations, ou gémir sur mon époux emporté sous la terre par des souffles meurtriers ? Ou sur toi, ma fille, pour le bien de la ville, tu as eu cette mort pieuse et impie, sacrée et sacrilège couronne d'illusions. Nous allons à la mort, à la mort. Il est sec de larmes et plein d'une pensée de fauve, celui qui ne pleure pas sur mes malheurs. Horreur, horreur, ô terre fuyée. Ah, si mes malheurs avaient une fin, fuyée cette terre. Le sol de la ville danse, il saute, Poséidon se jette sur la ville. Il n'y a pas plus malheureuse que moi, la douleur est là, le toit du palais s'effondre, l'armée. Nous allons à la mort. Toute Poséidon fait sa bacchanale dans la maison.
Au dernier moment, avant que la ville ne s'écroule, Athéna surgit. En quelques phrases, elle va tout régler. Elle demande à Poséidon d'arrêter sa vengeance. Les filles qui sont mortes, la fille sacrifiée et ses deux sœurs, doivent être enterrées ensemble, dans un enclos sacré, interdit aux ennemis. Elles seront honorées de sacrifices et de danses. Leur souffle ont trouvé refuge dans le ciel. Comme vivantes, elles avaient la couleur de la fleur hyacinthe. On les appellera les divines hyacinthides, une constellation. Un temple sera élevé pour Erecté. Ce temple portera un double nom. Temple d'Erecté et de Poséidon. Désormais, les deux noms seront confondus. Erecté prendra désormais, en mémoire de son meurtrier, le nom de Poséidon. Praxitéa, la reine, deviendra la grande prêtresse d'Athéna. La déesse prédit aussi un grand avenir religieux pour le fils d'Eumolpos à Eleusis, mais là, le papyrus s'arrête brusquement. Athènes est sauvée. Poséidon le marin est réconcilié avec la lignée autochtone. Dorénavant, il a son culte au cœur de la ville, comme Athéna. Athènes peut être définitivement terrestre et maritime. Mais à quel prix ? Il en a fallu des surprises, des guerres, des folies humaines et des mesquineries accablantes. Les acteurs humains de cette histoire réagissent de manière hallucinée ou bornée. Les acteurs divins sont pleins de colère et d'esprit de vengeance. Et pourtant, malgré ces petitesses qui amusent Euripide, ça marche. Une cité est mise en place. Si on regarde comment ça s'est fait, ce n'est pas triste. La semaine prochaine, nous cesserons de parler de mort, de folie et de catastrophe. Nous irons en comédie, avec Aristophane. Et nous verrons comment Athènes, la grande démocratie, qui donnait tant d'importance au vote de ses citoyens dans les tribunaux, se débrouillait pour juger équitablement un chien qui a commis le crime de voler et de dévorer, sans le partager, un bon fromage de Sicile.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Cette émission a été réalisée par Maria Pasquet. La prise de son a été réalisée par Tilae Ravu. Et le mixage par Gaspard Laloum. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechen. Les musiques ont été choisies par Valentine Chedebois. Bonne journée sur France Inter.